Nous vivons une époque formidable.
Quoique...
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30...
Quoique...
Le lundi, le mercredi...
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est absolument incroyable, le mercredi 2 décembre, il est 8h30 avec moi Nico, salut Nico.
C'est complètement dingue.
C'est complètement fou, avec des ordis qui bug de partout ce matin, c'était super, j'ai passé une matinée absolument d'enfer, ce qui ne nous empêchera pas d'être dans un instant par téléphone avec Serge Marignan qui a publié en mars dernier, viens aux éditions d'Ulysse Bleu et dont une partie se passe en Cévennes, on sera avec lui par téléphone dans un instant. Et puis ils ont, vous avez réussi à faire bugger mes ordi, eh oui. Mais il y aura un mini son que j'ai commencé à monter de la manif de samedi où Nico t'y était, t'as posé une super question, c'est quoi la France?
Non, c'est quoi votre vision idéale de la France?
Vision idéale de la France, ouais, c'est ça, n'importe quoi. Je te dis, j'y suis à Donfait ce matin. En tout cas, t'y étais samedi, on écoutera le début et le reste donnera lieu à un créneau libre fin de semaine. Voilà, je m'excuse un peu, ça arrive. Je crois que c'est la première matinale que je fais comme ça, un peu à l'arrache, mais bon.
On va dire qu'il n'y a pas que les ordis qui buguent.
Non, c'est clair.
Voilà. Expérience faite. Hein.
C'est clair. Non mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, il y aura de la musique, évidemment. Gros hommage ce matin et on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Elle a créé les fameuses fabulettes. Elle a raconté des dizaines d'histoires pour les plus petits et en même temps, elle a chanté et défendu la liberté des femmes. C'était une grande poétesse, une admirable chanteuse. Anne Sylvestre est morte lundi. Anne Sylvestre était drôle, on l'aurait presque oublié. Et sa préférence pourtant allait à ceux qui doutent, à ceux qui paniquent, les dubitatifs professionnels, tous ceux qui font voguer les incertitudes sur des flottilles de papier. Elle aimait les adolescents de casse-pieds qui se mettent en anorak sur la plage, les nanas qui ratent les mayonnaises ou leur maquillage. Elle aimait ceux dont la tête ressemble à des épiceries de village, avec sur leur rayon, je la cite, sur leur rayon du fil, des harengs, des poires, des cornichons, des histoires, des tumouches, des crayons, même pas en rang d'oignons. Elle me faisait rire. Elle me rappelle les grands voyages en bagnole avec mes parents, où mon Walkman sur les oreilles, je pouvais l'écouter pendant des heures. Et vive l'auto-reverse. L'auto-reverse, c'était quand même un truc de ouf, où je pouvais m'endormir sur du Anne Sylvestre et continuer de l'écouter pendant des heures. Du Anne Sylvestre ce matin dans la matinale, juste un hommage, pas vraiment un édito, c'est vrai, je l'avoue, et une chanson qui me faisait bien marrer, ça s'appelle Calamity Jane. Elle ne se n'était pas une calamity, c'est sûr.
Écoutez, tas de coyotes, de foie jaune depuis toi, arrêtez-moi vos parlotes, vous me chagrinez le foie. Écoutez donc la balade d'une qui n'a jamais pu supporter les algarades ni les coups de pied au cul. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary, y coque le salaud que j'aime, m'appelle à Calamity. Pour tout ça, jamais je suis Calamity. Obéir me fut pénible, obéir ne m'allait pas. Mon père, à grands coups de bible, voulut me faire marcher droit. Aussi moi, j'ai pris la porte, un cheval et un fusil, en laissant tous ces clopantes pourrir dans leur mauvais lit. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary devint la reine des plaines, devint la calamity. Sachez que partout on dit calamity. J'ai suivi des caravanes, travaillé comme un chinois. Je voulais pas montrer mes cannes à des abrutis sournois. J'aime pas le feu qui s'allume au fond de leurs yeux cochons. Et j'ai porté le costume au lieu du triple jupon. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary s'en fout pas mal qu'on la prenne pour un homme travesti. Elle sait bien tout ce qu'on dit calamity. Le jour des locomotives, je rencontre un Irlandais. Faut vraiment que tout arrive, il me tire le portrait. La main sur ma carabine et le chapeau de travers. J'ai vraiment une drôle de mine, il va la rater j'espère. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary n'a pas besoin qu'on la prenne en photo pour la galerie. C'est pas souvent qu'elle sourit, quelle amitié. Rossignol, triste bobine, tu penses que j'ai rêvé et qu'à la simple gamine, Hickok n'a jamais parlé. Mais que le diable me flanque en enfer si j'ai menti et qu'il t'arrache la langue espèce de chien de prairie. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary. Elle ment comme elle dégaine, on sait pas quand c'est parti. Faut pas croire tout ce qu'elle dit, quelle amitié. Quand je raconte mes fables, c'est pas forcé d'écouter. Si j'ai envie d'aller au diable, qui viendra m'en empêcher? Riez pas de mes coutumes, aujourd'hui j'ai du poulet, et demain j'aurai les plumes, c'est la vie et ça me plaît. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary. Attends pas qu'on la comprenne, cherche pas qu'on lui sourie. Elle aime pas la compagnie, quelle amitié. Je vous raconte les punaises de Deadwood. Vu que je leur faisais honte, elles ont voulu en découdre. Se sont ramenées en troupe pour me chasser du pays, en criant faut qu'on lui coupe sa tignasse de furie. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary. C'est pas tellement qu'elle y tienne à son scalp, mais sacristi, qui le touche risque sa vie, quelle amitié. Je leur ai cogné le crâne, j'ai dévissé leurs chignons, soulevé leur jupe infâme, montré leur cul de guenon. Je les ai fessés en cadence, j'ai jamais tant rigolé. Je leur ai flanqué une danse qu'elles sont pas prêtes d'oublier. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary. Elle aime pas trop ça qu'on vienne la chatouiller, mes amis. Elle partira pas d'ici, quelle amitié. Voyez ces gens de la ville qui vous font du baratin, vous prennent pour des imbéciles avec leur mine de rien. Si j'étais pas si méfiante, je lui racontais ma vie, que le diable m'ébouillante, il disait que c'était de lui. Martha Jane, Martha Jane, Martha Jane Canary. Veut bien que son nom devienne célèbre en tous les pays, mais c'est elle qui écrit Calamity.
Nous sommes ce matin avec Serge Marignan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié en mars dernier « Viens » aux éditions du Lys Bleu. Merci d'être avec nous. Alors pour un auteur, déjà la première question, ça doit être étonnant d'entendre depuis quelques semaines que vous n'êtes pas essentiel. Comment vous l'avez ressenti ?
Que je ne suis pas essentiel. Bon, ben, on l'a, si vous voulez, on s'y fait, on va dire, par la force des choses. Mais bon, on sait que la lecture, de toute façon, on voit la fréquentation des librairies, puis toutes les... La problématique que cela peut amener, on sait très bien que la lecture, c'est un voyage dont on ne peut pas se passer.
C'est clair. Alors justement, puisqu'on parle de lecture, vient donc votre roman. Quand est-ce qu'a commencé l'aventure de ce roman ?
L'écriture,
oui.
Elle a commencé aux alentours de juillet-août 2018, pour se terminer un an après.
Un travail long et fastidieux.
Pratiquement un an, fastidieux non, mais c'est vrai que je le faisais à mon rythme, mais c'est un travail où l'imaginaire et le réel sont en permanence en confrontation.
Alors j'ai pas encore eu la chance de le lire hein, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est quoi la trame de votre histoire ?
Alors l'histoire se passe, si vous voulez, en deux temps. Elle commence dans les années 70. Elle se termine en 2017 et deux ados dans les années 70 qui sont très 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 amoureux, très très proches. C'est pratiquement un coup de foudre qui vient de se passer. Mais bon, c'est une histoire d'amour à rebondissements multiples et donc ils vont être amenés à se séparer. Puis ils vont se perdre, ils vont se retrouver pour se reperdre à nouveau. Et si vous voulez l'intrigue, enfin si oui, il y a eu l'intrigue parce qu'à la fin on va savoir s'ils vont arriver à se revoir, à reprendre cet amour. La question, si vous voulez, qui est le fil conducteur du livre, c'est le questionnement, c'est comment voyage dans le temps un grand amour. D'abord, voyage-t-il? Et s'il voyage, comment il voyage? Et voilà, ça se passe dans le Gard et dans l'Hérault. Et je me suis amusé à jouer sur la forme. Parce que l'histoire, bon, c'est une histoire d'amour, c'est vrai que c'est classique, hein, tout le monde a une histoire, peut avoir une histoire d'amour, bien heureusement. Mais j'ai joué sur la forme en mélangeant les genres. C'est un journal qui se lit à travers deux journaux intimes qui dialoguent entre eux, le journal de l'adolescence et puis le journal que tient le narrateur dans les années 2017-2018. Et j'ai rajouté des lettres. J'ai rajouté des écrits bâtis sous la forme de courts scénarios de cinéma, je rajouterai que dans le texte, le cadre du roman, si vous voulez, ce sont les années 70, les années de liberté, les années de musique, de cinéma, de découverte amoureuse. Donc j'ai voulu faire un patchwork de tout ça.
Et puis l'idée aussi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il existerait une mémoire commune. Et puis qui n'a pas rêvé de retrouver son amour d'adolescent ou son premier amour ?
Tout à fait. Donc j'ai joué un peu là-dessus, sur la transcription des souvenirs. Et puis chacun réagira en fonction de ses souvenirs propres, de ses amours qu'il a pu avoir, qu'il a pu retrouver peut-être, peut-être pas. Voilà, j'ai joué là-dessus, sur la survivance de cette mémoire collective.
Dépeindre une histoire d'amour à deux époques différentes, c'est un exercice de style intéressant, vous l'avez abordé, puisque entre les années 70 et maintenant, le rythme est très différent. C'est ça qui vous a intéressé, et est-ce que ça se transcrit dans votre écriture ?
Oui, enfin, je dirais que le rythme de vie est différent, mais le langage aussi était différent. Donc c'est vrai que la principale difficulté, c'était de bâtir ces deux journaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, de les bâtir de façon chacun. On ne peut pas imaginer que le Julien, parce qu'il s'appelle Julien, de 1970 résonne et parle comme celui de 2017. L'histoire est passée entre-temps, la réflexion, donc c'est un gamin qui ne peut pas adopter les mêmes postures et les mêmes langages qu'un sexagénaire. Donc la difficulté a résidé là-dedans, déjà retrouver des postures, à retrouver des langages, à retrouver des expressions pour habiller mon journal et mes dialogues.
Et puis, il est aussi question du festival de jazz de Jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut dévoiler pourquoi ? Ce n'est pas à moi de le dire. Vous pourrez le dire si vous le voulez. Pourquoi vous avez choisi ce lieu pour les retrouvailles ?
Alors, c'est un petit village qui connaît maintenant, qui a une bonne réputation à travers son festival de jazz depuis à peu près 25-26 ans. Donc, moi, j'habitais à côté. Je suis originaire de Calvisson. Donc, c'est un lieu qui me tenait à cœur. Et puis, c'est vrai qu'en 2017, j'ai assisté à un concert de jazz, et notamment le musicien suédois, le contrebassiste suédois Lars Danielsson. Et à travers ce spectacle, j'ai eu l'idée que quelqu'un voyait une silhouette, revoyait un monsieur de 60 ans, retrouvait la silhouette de quelqu'un qu'il avait connu 30 ans, 40 ans auparavant. Et de là, il est l'histoire. Et donc, comme j'aime la musique, et comme j'aime rythmer mes mots, rythmer mes phrases, mettre un certain fluide, une certaine rythmique dans mes mots, j'ai tenu à faire démarrer et à terminer mon roman sur la scène de jazz de 2017.
Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que justement ces mots, la musique de ces mots, vous l'entendez et donc vous ne mettez pas de musique, ou alors est-ce que vous mettez de la musique quand vous écrivez ? Est-ce que ça rythme votre roman ?
Alors, je mets souvent de la musique quand j'écris. J'essaye de faire convenir, bien évidemment, les rythmes de ce que j'écoute à travers l'impression générale, à travers le sentiment qui passe dans les mots que j'écris au moment voulu, mais pas tout le temps. Alors, des fois, et quelquefois, j'ai la main sourdine et je l'arrête aussi quand je suis sur des dialogues ou quand je ferme un petit peu plus difficilement le texte, j'arrête un petit peu. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup m'accompagner de musique de la même façon que je construis mes textes. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, j'ai fait pas mal de randonnées, et je construis mes textes, ma rythmique, si vous voulez, en marchant. Et quand j'arrive de mes balades, bien souvent, pas tout le temps, mais bien souvent, j'ai quelques idées, et ça jouait donc justement pour ce roman. Je notais, je développais mes scènes et je leur donnais une impulsion à travers la marche, et que j'ai essayé de la retrouver à travers les musiques. Et donc, je pense que vient est accompagné par ces rythmes-là, oui.
Ouais, et puis si vous parlez de marche, évidemment, nos chères Cévennes sont propices à tout
oui.
ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elles sont un peu retranscrites dans votre roman, si j'ai bien compris.
Et j'ai tenu à... Parce que les Cévennes, moi, je suis, comme je vous ai dit, natif de Nîmes, dont j'habite Calvisson, mais les Cévennes étaient très proches. J'ai la famille, d'ailleurs, sur les Cévennes. Et c'est un endroit où je m'en ai très souvent. On y allait, Saint-Jean-du-Gard, Anduze, Sainte-Croix-Vallée française. Enfin, c'était des régions que je visitais très régulièrement. Et j'ai tenu à faire un épisode particulier qui va se dérouler, à écrire un épisode particulier qui se déroule dans les Cévennes. Et donc, en Buse et puis un peu plus haut, côté Lozère, Pont Ravagé, le Pompidou, ben, voilà, c'est cette région-là. Et c'est un week-end amoureux que les deux jeunes, Julien et Michel, donc qui sont les deux prénoms des deux protagonistes, vont vivre à travers ce week-end, à travers cette description. Et j'ai tenu à rendre hommage, si vous voulez, même brièvement, à cette région que j'ai beaucoup connue et qui m'arrive encore d'aller visiter.
Et quelle autre plus belle région pour un voyage en amoureux, c'est sûr. Comment s'est passée votre rencontre avec votre maison d'édition, Le Lys Bleu ?
Quand j'ai terminé mon roman, je l'ai envoyé à une dizaine de maisons d'édition à compte d'éditeur, parce que je ne voulais pas, contrairement au livre précédent où j'étais édité à compte d'auteur, je voulais que ce soit dans la mesure du possible que je sois édité à compte d'éditeur. Donc j'ai eu deux ou trois retours intéressants et puis j'ai choisi la maison qui me semblait être la plus sérieuse, celle qui allait m'accompagner un peu plus dans la promotion, dans la découverte du livre. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Je ne les connaissais pas auparavant, on va dire.
Vous avez dit un an de travail pour ce roman. Alors, est-ce que vous vous faites relire par vos proches qui peuvent vous conseiller ? Et si oui, est-ce que c'est facile, entre guillemets, de corriger ce qui a déjà été écrit ?
Alors, c'est vrai que je ne fais pas lire à mes proches ce que j'écris. Peut-être par pudeur, peut-être par sentiment personnel. Et j'évite. Donc, par contre, je me suis appuyé à... J'ai voulu le faire lire à deux, trois personnes de mon entourage, de mes amis, pour avoir l'idée, pour avoir un retour qui soit... parce que c'était quand même un sujet, une façon de l'écrire surtout, c'était sur la façon, sur le genre que je me posais la question, sur ce mélange des genres. Et je voulais avoir un retour là-dessus. Et bon, il a été positif. Mais c'est vrai que j'écris de façon assez personnelle. Alors j'ai une page Facebook que je tiens depuis la parution du livre précédent, en 2018, qui s'appelait La Place de l'Horloge. Et je l'ai continué avec la parution de ce livre, sur laquelle je mets des extraits, je mets quelques... Et puis je l'agrémente aussi de textes plus personnels, qui n'ont pas de rapport avec mes livres. Mais c'est vrai que j'écris seul. Je n'aime pas, enfin, je ne sais pas que je n'aime pas, mais... Ce n'est pas cette envie ou ce désir de faire partager des moments d'écriture qui sont au départ tout à fait intimes.
Et on mettra le lien de votre page Facebook tout à l'heure sur notre site internet. Alors la question peut paraître étonnante, votre roman a été publié donc en mars dernier, pile poil pour le premier confinement. Est-ce que ça fait peur de publier un roman en 2020 dans cette période vraiment inédite ?
Alors, pour tout vous dire, il a été édité en janvier, une première fois, et j'ai dû le retirer de la vente, parce qu'il y avait quelques soucis à travers le premier jet. Mais la deuxième édition s'est faite au mois de mars, et entre-temps, on a découvert le confinement qui nous est tombé dessus, et c'est vrai que c'est quelque chose de... On ne peut rien faire compte, même si on comprend difficilement que des librairies ce ne soient pas, comme vous disiez en introduction de l'émission, identifiées comme des commerces essentiels. Mais voilà, donc il nous reste l'envie de faire partager. Alors c'est vrai que j'ai essayé à travers les médiathèques, mais les médiathèques aussi étaient fermées, donc c'était compliqué. Il restait des réseaux. Des réseaux particuliers de personnes, des contacts pour le faire reconnaître, en espérant que, bien sûr, que la date d'ouverture soit le plus rapidement possible. Donc, elles sont ouvertes au mois de mai 2020. Et puis, on a connu, après, bien sûr, encore un deuxième confinement qui vient de s'achever là, il y a peu de jours. Alors, c'est vrai que pour tout ce qui tourne autour de ce secteur-là, c'est pas très, très facile.
Vient votre roman Serge Marignan paru au Lys Bleu est disponible. Serge, on conseille aux auditeurs et aux auditrices d'aller dans les librairies pour le commander.
Oui, tout à fait. Vous pouvez le conseiller, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, d'autant plus qu'elles viennent d'ouvrir et puis qu'elles ont subi deux confinements qui les ont mis quand même un peu sur le flanc. Donc il vaut mieux, moi je conseille toujours de passer par des librairies. Il est disponible, il faut le commander bien entendu, mais bon, c'est pas très long pour le recevoir. Le délai n'est pas très long, mais je pense que vous faites bien de conseiller, de donner ce conseil à vos auditeurs et vos auditrices.
Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez d'autres projets en tête, d'autres envies d'écriture ?
Je suis depuis quelques semaines, là, depuis un mois et demi, sur un nouveau roman, oui, qui va se dérouler lui aussi, alors dans le temps. Bon, ça n'aura pas de. Le thème principal n'aura pas de rapport immédiat avec Zin, bien entendu. Mais ce sera une histoire d'amitié, des amis qu'on va suivre, un groupe d'amis qu'on suivra des années 70 aux années 2010, qui va se passer dans le Gard, dans l'Hérault, dans le Corse, parce que j'habite en Corse. Je me suis attaché à écrire. Mon matériau préféré pour ce que je peux écrire à ce jour, c'est le temps qui passe, puis les relations entre les hommes, les femmes, vous voyez, c'est ce qui m'intéresse dans l'écriture.
Via votre roman, Serge Marignan est donc paru au Lise Bleu. Il est disponible. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi qui vous remercie de votre gentillesse et de m'avoir accueilli. Merci bien.
Avec grand plaisir. Vive l'amour en ces temps étonnants et bonne continuation à vous. À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Sans transition, samedi, il y avait manif et une forte mobilisation. Nico y était. Alors, mon ordi a bugué. Je finirai le montage et ça donnera un créneau libre fin de semaine. Vous signalez quand même que Titouan, notre cher stagiaire, excellent stagiaire qui est resté une semaine avec sa bonhomie et son sourire, a fait le montage de la manif il y a 10 jours et ce sera ce soir mercredi à 20h si ça vous intéresse. C'est quoi votre vision idéale de la France? Et la deuxième question, c'est quoi votre avis sur le discours politique aujourd'hui? Il y a de quoi dire. Alors forcément, j'ai pas mis votre avis sur le discours politique. Ça va débarquer, vous inquiétez pas. Ce sera suivi d'Anne Sylvestre, Pleure Mater. En tout cas, on écoute ça tout de suite. C'est quoi votre vision idéale de la France ?
Oula, ça fait longtemps que j'ai plus de vision idéale de la France. Désolé.
Une vision tolérante, où on tolère les gens qui sont différents mais qui peuvent vivre ensemble. D'avoir des policiers qui nous protègent et non qui nous menacent, nous tabassent et puis qui fassent des contrôles aux faciès parce que en banlieue c'est les Noirs et les Arabes, mais ici dans le monde rural ce serait plutôt les gens un petit peu alternatifs, gauchistes, à qui on fait des tests salivaires pour retirer leur permis, donc c'est une chasse qui est bien ciblée. Voilà, moi, ma France idéale, c'est une France où il y a tout le monde qui puisse pas être d'accord tout le monde ensemble, mais quand même qu'on puisse faire des choses ensemble, se tolérer et puis se faire des bisous.
Avec un gros changement de gouvernement, une nouvelle république.
C'est déjà de sortir de cette société capitaliste. Hein, de la marchandisation de toute la vie économique et sociale. Ce serait que tout le monde ait un revenu, que l'argent, ça serve à vivre, ça soit un moyen de vivre et pas une récompense. Donc que tout le monde ait un salaire et que tout le monde puisse travailler, parce que du travail, il y en a pour tout le monde. Ce qu'il n'y a pas, c'est des emplois qui soient rentables pour les patrons. Mais du travail, il y en aurait pour tout le monde. Donc moi, je suis pour un revenu pour tous. Le même, d'ailleurs, pour tout le monde, parce que je vois pas pourquoi il y aurait... Le temps de chacun a la même valeur, à mon avis. Donc moi, je serais pour que tout le monde ait un revenu et tout le monde puisse travailler, collaborer avec les autres de manière libre et souhaitée, quoi. Et je pense que tout le monde trouve sa place dans la vie collective, quoi. Voilà, ça serait ça mon idéal. Et que du coup, la transition écologique, là, ça serait possible, parce qu'il n'y aurait plus de lien entre le revenu des gens et la production. Et du coup, on s'en foutrait d'arrêter les bagnoles ou d'arrêter les avions. Voilà. Tout le monde pourrait se reconvertir. Voilà, ça serait ça, mon rêve.
France paisible, apaisée, où il y a des débats contradictoires, parce qu'on pense... On n'a pas tous la même idée de la France idéale. mais on doit pouvoir vivre de son côté, sa propre vie. À partir du moment où on ne nuit pas à celle des autres, je pense que c'est possible qu'il n'y ait pas trop d'opposition, de clivage, de communautarisme. C'est ça peut-être. Hein.
La France idéale, ça serait vachement plus de démocratie et surtout plus centrée sur les départements, avec plus de décisions directement auprès des départements et vachement éloignée du cas par cas, quoi.
Moins centralisé, quoi.
Voilà, moins centralisé, carrément moins centralisé sur Paris, ouais.
Bah, une France comme on en rêve tous, un pays où il fait bon vivre, où on a quand même des marges de liberté, qu'on ne soit pas flippé tout le temps, que les gens se côtoient, fassent des choses ensemble, enfin vivre quoi.
Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, ça bouge, ça manifestation. Ça sort tous les samedis, dépenser son pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. France, du la gueule à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense.
Bah, tu sens qu'ils sont totalement déconnectés de ce que nous on a envie et qu'il y a vachement de lobbying et qu'il y a vachement de décisions qui sont faites pour eux et qu'ils nous écoutent pas du tout et qu'ils s'en foutent.
Il faut de l'apaisement, quoi. Il faut un truc qui arrête d'être clivant et qui rassemble les gens au lieu de les diviser. Je sais pas par quoi ça peut passer, mais il y a un grand besoin de rassemblement et d'unité, quoi.
Pleure ma terre au ventre déchiré. Pleure la terre où mon sang a coulé. Goutte de sang pour qu'un jour elle germe. Combien de morts pour qu'elle se referme. Combien de cris en silence poussés. Pleure ma terre au ventre déchiré. Oh, que les cieux se couvrent de nuages. Que les éclairs déchirent l'horizon. Avec mon sang s'écoule tout un âge. Un peuple meurt quand meurent les bisons. J'étais la bête venue du fond des temps. Et mon galop avec les pieds du vent. J'étais poussière et sang de vos ancêtres. Et dans mes reins, combien d'enfants à naître. Ils sont partis vers le soleil couchant. J'étais la bête venue du fond des temps. Oh, que les cieux se couvrent de nuages. Que les éclairs déchirent l'horizon. Avec mon sang s'écoule tout un âge. Un peuple meurt quand meurent les bisons. La terre est rouge de mon sang répandu. La terre brûle de guerriers étendus. Partout des feux et la mort imbécile. Hommes perdus à jamais inutiles. Chant de la vie qu'on n'a pas entendu. La terre est rouge de mon sang répandu. Oh, que les cieux se couvrent de nuages. Que les éclairs déchirent l'horizon. Avec mon sang s'écoule tout un âge. Un peuple meurt quand meurent les bisons. Pleure ma terre au ventre déchiré. La terre où mon sang va germer. Bourgeon de sang, ne restez pas inerte. La terre est là comme une plaie ouverte. Puisse la vie un jour la refermer. Pleure ma terre au ventre déchiré. Oh, que les cieux se
un peuple meurt, on meurt des bisons. Pour que les cieux se couvrent de nuages, que les éclairs déchirent l'horizon. Avec mon sang s'écoule tout un âge, un peuple meurt.
La grande Anne Sylvestre pleure ma terre. Voilà, petit goût d'inachevé, je m'en excuse pour le reportage. Voilà, ça arrive, les ordinateurs qui buguent, que voulez-vous ? Jamais la machine ne pourra remplacer l'homme. On était en direct, c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup Nico.
Merci à toi Ben, merci à tout le monde.
Et on se retrouve lundi avec tout qui marche bien. Voilà, c'est comme ça, j'ai décidé que tout allait bien marcher. On se quitte évidemment avec Anne Sylvestre, l'une de ses plus belles chansons à mon sens. Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter Les gens qui doutent, une émission qui a été faite l'année dernière par Céline, que je salue. La chanson s'appelle Les gens qui doutent. Profitez bien de votre journée, je vous embrasse, à lundi, ciao.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.